C'est sur la base des promesses de Dieu que nous savons que nous pouvons nous tenir devant Dieu. Sur la base de ces mêmes promesses, nous savons aussi qu'il nous conduit jusque dans les cieux pendant notre périple sur terre jusqu'à la mort. Dieu nous conduit par son berger Jésus-Christ, comme un berger qui conduit son troupeau. Et le peuple d'Israël, dans sa marche dans le désert, est une bonne illustration de cela. Même, c'est une des raisons pour laquelle Dieu nous révèle tout le voyage d'Israël. C'est pour que nous comprenions, nous, dans cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle ère, comment Dieu veut nous conduire jusque dans la terre promise, mais dans les cieux, sur la nouvelle terre. Et Dieu a fait, comme avec nous, il a fait une alliance avec Israël au mont Sinaï. Ce qui est malheureux, on l'a vu dans notre dernière étude, c'est que ça n'a pas pris de temps que le peuple d'Israël s'est rebellé contre Dieu. Ils ont enfreint l'alliance. La base même sur laquelle l'alliance était fondée, c'est-à-dire leur fidélité à Dieu. Ils ont construit un veau d'or. Ils l'ont adoré. Ils ont même été jusqu'à dire que c'était ce veau qui les avait libérés puissamment d'Égypte et que c'était lui l'Éternel. C'est grave ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont péché directement contre les trois premiers commandements des 10 commandements de Dieu. Où Dieu avait dit « Vous n'adorez que moi seul ». Ils se sont mis à adorer d'autres dieux, un veau qu'ils se sont eux-mêmes fabriqué. Il avait spécifiquement dit de ne pas se forger, de ne pas se construire d'images taillées ou de statues pour représenter une divinité en utilisant un animal ou quelconque chose de sa création. Et ils ont fait un veau pour représenter Dieu. Il avait dit aussi de faire très attention à son nom, le nom l'Éternel, de ne pas l'utiliser en vain. Et ils ont apposé son nom sur un animal en métal. Ils l'ont déshonoré. Et ils l'ont fait publiquement. Ils ont même fêté, festoyé, au point où leur joie s'entendait de loin. Je ne sais pas si d'autres peuples l'ont entendu, mais Moïse n'était pas encore descendu de la montagne qu'il les a entendus fêter. Même le chapitre 32 se termine sur ces mots. « L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait ce veau fabriqué par Aaron, leur chef spirituel. » C'était grave et ils ont été sous la colère de Dieu. 3000 personnes même sont mortes ce jour-là du ménage qui a été fait dans le camp. On a vu même que Moïse a exprimé la colère de Dieu parce qu'ils avaient outragé son nom et ils avaient enfreint l'alliance qu'ils venaient de conclure. Et même symboliquement, Moïse a jeté les tables de l'alliance par terre qui ont été brisées. C'était un message clair qui était envoyé au peuple de Dieu. En réalité, Dieu voyait qu'ils avaient brisé l'alliance et Dieu était en droit d'exiger le divorce de son épouse, le peuple d'Israël. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas rejeté son peuple, en grande partie à cause que Moïse est intervenu pour plaider en faveur du peuple, pour intercéder en leur faveur, implorer Dieu, la pitié de Dieu pour son peuple. Il est allé, Moïse, même jusqu'à dire, « Prends-moi à la place du peuple, punis-moi. » Il était prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël. Et ça a touché le cœur de Dieu, et Dieu est revenu sur la possibilité de se séparer d'Israël, de le rejeter. On voit aussi que Dieu s'est rappelé de sa promesse faite à Abraham, promesse qu'il avait répétée à Isaac et à Jacob, qu'il allait de leur fils naîtrait une grande nation, grande comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, et qu'il allait leur donner un pays, le pays de Canaan, la terre promise. Et pour rester fidèle à sa parole, à sa promesse, Dieu n'a pas rejeté Israël. Aussi, il voulait préserver son honneur. Moïse le rappelle lorsqu'il parle à Dieu, mais on voit que Dieu voulait préserver son honneur face aux autres nations. Les autres peuples auraient pu dire, non, Dieu les a sortis déjà pour aller les faire mourir dans le désert. Ils auraient pu se tromper sur les bonnes intentions, le bon cœur de Dieu. Ils auraient pu se tromper aussi sur la puissance de Dieu. Les gens auraient pu penser que Dieu n'était pas assez puissant pour les transporter en sécurité, pour les garder. Mais ça aurait été faux parce que Dieu aime son peuple et Dieu est assez puissant. Et il a décidé de les préserver. Lisons maintenant ce qui arrive par la suite. Exode 33, les 17 premiers versets. Exode chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, « Va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, monte d'ici vers le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob, en disant, « Je le donnerai à ta descendance. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Monte vers un pays découlant de lait et de miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. » Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil, et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerais. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements, et je verrai ce que je vais te faire. » Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements à distance du mont Horeb, qui est un autre nom que le mont Sinaï. C'est le même mont. Moïse prit la tente, ou une tente, et il l'adressa pour lui hors du camp, à quelque distance. Et il l'appela tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre, qui était hors du camp. Et lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa propre tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse entrait dans la tente, une colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune assistant, Josué, fils de Noun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu m'as dit, je te connais par ton nom, et même, tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. » Mais Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marches avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. » Amen. Donc, on voit premièrement que Dieu déclare à son peuple qu'il ne va pas marcher avec eux jusqu'à la terre promise. Il va disposer d'un ange qui va les conduire, mais lui, il ne marchera pas avec eux. Pire que cela même, on voit qu'il n'habitera pas au milieu d'eux. Il sera à l'écart. Mais on voit que ça a touché le cœur du peuple et que pour eux, c'est une situation non viable. C'est hors de question. Ils ne peuvent pas partir sans Dieu à leur tête et sans Dieu parmi eux. Mais si on regarde les 6 premiers versets, l'emphase est surtout mise sur le fait que Dieu ne marchera pas avec eux. Même Dieu parle du peuple comme étant le peuple de Moïse. Il y a encore une distance avec lui. On voit que la réconciliation n'est pas faite. Il dit, « Va, toi et le peuple que tu as fait monter d'Égypte. » Dieu marque une distance même dans la manière dont il parle. Et Dieu annonce que le peuple va monter jusqu'à Canaan, va conquérir le pays tel que promis à Abraham. Donc, sur la base de sa promesse, Dieu reste fidèle. Mais il ne montera pas à leur tête. Dieu va envoyer un ange de peur de les détruire en chemin. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Les détruire en chemin. Mais on comprend que c'est parce que Dieu est en train de leur dire, puisque vous êtes un peuple au cou raide, c'est un peuple rebelle qui peut vous rebeller très facilement. Rapidement, vous venez de le montrer. Tout porte à croire que si je marche avec vous, vous allez vous rebeller à la première occasion. Ma colère va s'enflammer et finalement, vous allez être détruit. Vous ne pourrez pas survivre jusqu'au bout. Vous ne pourrez pas supporter qu'un être 3 fois 5 comme moi vous dirige. Vous allez être brûlé, comme un insecte qui s'approche d'une lampe parce qu'il trouve la lumière belle, mais qui se brûle. Vous allez mourir si je suis à votre tête. Et apprenant cela, le peuple est tellement triste dévastés, même qu'ils mènent le deuil. Pour eux, c'est une funeste parole. C'est un signe d'humiliation, de soumission, même le deuil qu'ils mènent. Et c'est justement le genre d'attitude que Dieu voulait voir. Il veut qu'ils se dépouillent de leurs ornements, de leur parure extérieure. Et ils s'en étaient revêtus même pour fêter. Maintenant, Dieu souhaite qu'ils se dépouillent. C'est comme un signe extérieur d'un dépouillement du cœur. Ce n'est pas toujours pour cela qu'on va porter des bijoux ou que je porte une cravate, par exemple. Ce n'est pas toujours pour nous enorgueillir, mais ça peut l'être. Et il fallait pour eux montrer vraiment un signe d'humiliation totale devant Dieu, de soumission totale, qu'ils rejettent tout orgueil, puisque c'est cela qui les avait fait tomber. Mais juste avant, Dieu avait déjà annoncé qu'il ne les détruirait pas. Finalement, il avait accepté la demande de Moïse d'avoir pitié de son peuple. Il restait quand même son peuple. La terre qu'il leur avait promis leur était encore destinée. Alors pourquoi le peuple était si triste maintenant d'entendre ces paroles? Puisqu'il demeurait quand même le peuple de Dieu et qu'il se dirigeait quand même dans la terre promise. Mais pour eux, que Dieu ne marche plus à leur tête, c'était extrêmement grave. Ils avaient compris tout à coup l'importance de cela. Pourtant, un peu de temps avant, ils voulaient qu'un veau soit à leur tête, un veau créé par leurs propres mains. Mais là, tout à coup, ils ont réalisé là, le Dieu que l'on sert, celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Celui qui est puissant, celui qui peut se mettre en colère. Ils ont vu même 3000 du peuple mourir. Mais ce Dieu-là, créateur, c'est lui là, qui s'offre de nous diriger. Ils ont réalisé tout à coup ce qu'ils perdaient. Ça arrive souvent, tant qu'on n'a pas perdu une chose, on n'apprécie pas sa valeur. Et c'est une fois qu'on l'a perdu qu'on se rend compte de la valeur de la chose qu'on a perdue. Et ils s'humilient en signe de repentance. C'était vraiment une démonstration claire qu'ils envoyaient à Dieu. Nous voulons maintenant nous humilier, te servir toi seul. C'est plus que des mots même, c'était vraiment un geste physique. Et Dieu voyait leur cœur aussi, leur deuil. Et ils tentaient de récupérer le privilège de marcher avec Dieu. C'est cette attitude-là que Dieu veut voir parmi nous, en nous, chez nous, lorsque nous péchons. Pas la peur de perdre le titre de membre du peuple de Dieu ou enfant de Dieu. Dieu nous rassure à ce niveau-là. Il nous a adoptés dans sa famille, il ne va pas nous rejeter. Ceux vraiment qui sont sauvés, ceux qui font vraiment partie de son peuple, le sont pour l'éternité. Lorsque nous péchons, ce qui doit nous affliger, ce n'est pas la peur d'être rejeté de Dieu, mais c'est la tristesse quand même qui doit nous envahir. C'est une chose normale de ne plus jouir d'une communion intime avec Dieu, de ne plus sentir qu'on marche la main dans la main avec Dieu. Qu'on a besoin d'être réconcilié à nouveau avec Dieu. Que Dieu a été attristé par notre comportement, qu'il le déplore, voire même qu'il nous corrige. Dieu ne se retire pas totalement, mais nous pouvons perdre les bénéfices d'être remplis de son esprit, comme la joie, la paix dans toutes circonstances, la force pour traverser les épreuves. Si nous sommes dans le péché, que nous ne sommes pas humiliés devant Dieu pour nous repentir, et que l'épreuve survient, alors que nous ne sommes pas prêts, nous n'aurons pas la force pour traverser l'épreuve. Nous allons nous enfoncer encore plus dans le désespoir et même encore plus dans le péché. Si nous ne sommes pas en communion intime avec Dieu, si nous ne marchons pas avec lui, nous ne pourrons pas non plus résister aux tentations lorsqu'elles se présenteront. Vous voyez un reportage hier avec Mélo des animaux qui vivent dans le nord et les pingouins qui doivent se tenir en groupe parce qu'il y a des prédateurs qui sont prêts. Il suffit qu'il y en ait un qui s'écarte du troupeau et leur ennemi se jette dessus et il meurt. Mais lorsque nous péchons, que nous ne faisons pas tout pour nous humilier devant Dieu et retourner à lui dans l'intimité, nous sommes sujets aux attaques de l'ennemi et nous sommes faibles. Malheureusement, c'est lorsque nous résistons à Dieu que nous nous pensons forts. Mais c'est de la folie. Nous perdons aussi la sagesse pour faire de bons choix. Et si nous arrivons à un moment dans notre vie où nous devons choisir entre plusieurs options, si nous ne sommes pas dans une communion intime avec Dieu, remplie de son esprit, c'est presque inévitable que nous allons faire de mauvais choix. Nous allons être guidés par notre cœur mauvais ou par la pression de Satan même qui nous influence. Nous allons inévitablement manquer d'amour pour les frères et sœurs. Lorsqu'on se distance de Dieu, on se distance de sa famille, de son Église. Nous allons perdre le désir même de servir nos frères, de prier pour eux, de servir ceux qui nous sont chers, même ceux qui vivent avec nous. Et nous allons très certainement perdre le zèle d'accomplir la mission qu'il nous a confiée d'évangéliser. C'est une des premières choses qui va débarquer de notre vie. Le désir d'annoncer l'Évangile, de partager, de témoigner de ce que Jésus a fait pour nous sauver, on va perdre ce désir-là si on n'est pas rempli de son esprit et en communion intime avec lui. C'est pour ça que Jacques, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens, au chapitre 4, versets 9 et 10, il dit « Purifiez vos mains, pécheurs, nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez le deuil. Pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. » C'est une bonne chose. Mais lorsqu'on s'est dirigé vers une voie qui nous fait plaisir, on n'a pas le goût de se remplir de tristesse, là. C'est un peu contre nature de faire cela. Mais écoutons la voix du Saint-Esprit qui nous parle par sa parole. C'est la meilleure chose à faire. De s'humilier, de reconnaître que ce que l'on fait est mal, même d'en éprouver de la tristesse. Que nous ayons une tendance naturelle ou non à nous sentir coupables. On dirait que certaines personnes, plus facilement, vont être remplies de culpabilité lorsqu'ils pêchent. D'autres sont plus indifférents, moins émotifs de nature. Mais Jacques, il dit, c'est une décision que nous prenons. Faites le choix de vous humilier devant Dieu. Mais de manière sincère. Mais ça reste quand même un choix que nous faisons. De s'humilier, de se soumettre à Dieu, d'avouer ses torts et de se reconsacrer au Seigneur. Ici, la conséquence était grave de leur péché. Non seulement Dieu leur a annoncé qu'il ne marcherait pas avec eux, mais en plus, ils se retirent de la présence au sein du peuple. À partir du verset 7, on voit que Moïse prend une tente et il l'adresse hors du camp. Pourtant, Dieu avait annoncé, et c'était une des plus belles déclarations, Dieu, lorsque Moïse est sur la montagne, c'est qu'il va construire, il va faire fabriquer le tabernacle, le lieu saint, en plein milieu du peuple, pour habiter avec son peuple. Sa sainteté réjaillit sur le peuple. Tout le peuple allait être saint à cause de la sainte présence de Dieu. Mais là, à cause du péché effroyable qu'ils ont fait, Moïse, qui est le serviteur de Dieu et son prophète, construit une tente temporaire, mais à l'extérieur du camp. Moïse a bien compris que Dieu n'habiterait pas au milieu du peuple, un peuple souillé, infidèle. Donc, ça ajoute à la douleur du peuple. Leur roi, normalement, un peuple qui sortait à cette époque-là, qui sortait pour aller à la guerre, il avait les troupes, leur roi siégeait au milieu. Il y avait une tente, il était protégé par tous les gardes autour. Et le peuple se déplaçait avec le roi à son centre. Eux, ils perdaient la présence de leur roi au milieu d'eux. Ils allaient à l'extérieur du camp. La tente n'est pas trop loin et ils peuvent voir même la colonne de nuée, la colonne qui est la présence de Dieu, une représentation de la présence de Dieu, celle qui les avait guidés à leur sortie d'Égypte. Ils la voient de loin. Donc, ils voient ce qu'il manque. La colonne n'est plus au milieu d'eux. Ils peuvent réaliser ce qu'ils ont perdu. Et aussi beau que sont les paroles lorsque c'est écrit que Moïse voit Dieu face à face, qui peut lui parler. Mais ça souligne aussi le grand contraste avec le peuple. C'est seulement Moïse qui a un accès privilégié à Dieu. Le peuple est loin. Et il voit Moïse monter. Mais le peuple peut avoir un espoir quand même. Un espoir de réconciliation. Parce qu'alors qu'il voit Moïse monter vers... À la tente, il est indiqué aussi que chacun, quiconque, pouvait sortir du camp et aller se présenter à cette même tente-là. Bien sûr, en passant par l'intermédiaire de Moïse, mais pour consulter Dieu, connaître sa volonté. Et on déduit aussi que pour présenter des requêtes au Seigneur. Donc, chacun dans le peuple avait accès à s'approcher de Dieu, même si Dieu était hors du camp. écrit que quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre. Donc, c'est peut-être déjà un signe qu'il y avait une réconciliation possible en vue. Un autre signe positif, c'est que Moïse, qui représentait Dieu, qui était le porte-parole de Dieu, avait toutes les raisons. D'ailleurs, Moïse avait été rempli de colère lorsqu'il a brisé les tables, et avait toutes les raisons d'abandonner ce peuple-là, qui avait été non seulement rebelle à Dieu, mais qui l'avait rejeté lui-même. Il avait même menacé de le tuer. Et pourtant, Moïse montre une grande compassion pour le peuple et il reste fidèle. Et l'attitude de Moïse, c'est... Pour le peuple d'Israël qui le regarde, c'est comme une démonstration de l'attitude de Dieu. Lorsqu'il était en colère, ils ont compris à quel point Dieu est en colère. Mais de voir que Moïse reste attaché à eux, il va à la tente, mais il revient au peuple aussi. Il permet que des gens l'accompagnent pour transmettre les requêtes, consulter Dieu. Et il a une compassion pour le peuple, donc le peuple peut savoir que finalement Dieu a compassion d'eux. Il a pitié. Si Moïse ne les a pas abandonnés, c'est bon signe. Leur Dieu ne les a peut-être pas abandonnés non plus. Aussi, un autre bon signe pour la réconciliation, c'est que tout le peuple, tout à coup, a le cœur touché. On dirait que Dieu est intervenu, là, mais tout le peuple veut se réconcilier. Ils sont comme d'un commun accord, comme un seul homme. Ils sont humbles devant Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient Moïse se déplacer, sortir du camp, chacun se tient à sa tente et regarde Moïse comme un moment solennel. Et lorsque la nuit vient, chacun se prosterne, chacun adore Dieu. C'est bon signe, ça aussi, pour une réconciliation. Le peuple cherche la réconciliation. Mais le plus important, c'est que Dieu semble vraiment être en train de se réconcilier avec son peuple par Moïse. Il n'est pas au milieu de son peuple, mais il n'est pas loin. Il n'a pas établi la tente de l'autre côté des montagnes où est-ce que le peuple n'aurait pas accès. Il est quand même tout près, accessible. Il parle à Moïse comme... Non comme un maître parle à son esclave, mais comme un ami. Et ça, c'est pas pour rien que c'est souligné. Oui, ça montre que Moïse est un homme extraordinaire, mais ça montre aussi l'attitude que Dieu a envers Moïse, qui est le représentant du peuple. Dieu lui parle comme un ami. Donc, Dieu est une attitude paisible envers Moïse, qui représente le peuple. Tout porte à croire qu'il veut lui aussi, Dieu, considérer le peuple comme son ami. Les Israélites comme ses amis. Mais je ne dis pas ça pour diminuer l'importance du fait que Moïse parlait face à face avec Dieu. Et Dieu le rappelle. On lit plus tard dans Nombre 12, il dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui, dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Job, mon serviteur Moïse. » On étudiait Job ce matin dans le cours. « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. » Il est fidèle dans toute sa maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir à lui sans énigme. Et il contemple une représentation de l'Éternel. Même plusieurs théologiens pensent que Dieu, lorsqu'il parlait à Moïse, avait forme humaine. Et dans un sens, c'est comme le Fils de Dieu. C'est comme le Christ qui est venu. Comme peut-être à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Avant que finalement, il naisse sous la forme d'un homme sur la terre. Mais que ce soit le Christ ou non, c'est Dieu qui vient en représentation humaine parler à Moïse face à face. Dans Deutéronome 34, on lit « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse que l'Éternel connaissait face à face. » Mais Moïse a annoncé qu'un jour, un prophète comme lui allait venir. Et c'est Jésus. Nous pouvons, nous aussi, comme les Israélites, nous prosterner, adorer l'Éternel, à la pensée que Jésus est allé intercéder pour nous. D'ailleurs, les disciples ont vu Jésus s'élever sur les nuées, aller vers son Père. Il a dit qu'il nous préparait une place, un jour il reviendrait nous chercher. Sachant cela que Jésus est venu, est allé vers son Père, il est allé comme à la tente de la rencontre, de la réconciliation. Nous pouvons aussi être confiants que la réconciliation avec Dieu est possible. D'ailleurs, Il nous a confirmé que ça a eu lieu. Il nous a réconciliés avec le Père. Il dit dans Colossiens 1, 21 à 23, « Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis même par vos pensées et vos œuvres mauvaises, tous les péchés, vous étiez ennemis, étrangers, et il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair. Nous savons qu'il part de sa mort à la croix. Il nous a réconciliés pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut, sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et établie, pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile. Je disais tantôt que ceux qui font vraiment partie du peuple de Dieu le demeurent pour l'éternité. Et ici, Jésus nous donne la caractéristique de ceux qui font vraiment partie du peuple de Dieu. Premièrement, c'est qu'ils ont la foi. Le moyen d'être sauvé que Dieu a établi, c'est la foi. Et c'est seulement par la foi en son Fils Jésus qui est mort pour nous. Si nous croyons à cela, que nous nous humilions, nous nous prosternons devant Jésus, sachant qu'il est le Fils de Dieu, venu sur terre, mourir pour nous, nous sommes sauvés, nous entrons dans son peuple. Et nous manifestons l'autre caractéristique, c'est que nous restons fidèles à l'espérance dans l'Évangile. Cette espérance-là qui fait que nous désirons marcher avec Christ. Et comme Dieu considérait Moïse comme son ami, même il dit qu'il était son ami, et il l'est toujours d'ailleurs, il est dans sa présence. Mais Jésus, qui est lui-même Dieu, nous a obtenu la réconciliation avec Dieu, mais en plus, il nous a obtenu le grand privilège d'être considéré par Dieu comme ses amis. Jésus même nous appelle ses amis. Il dit dans Jean 14-15, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Plusieurs vont dire, « Ah, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Jésus. » Plusieurs vont dire, « Seigneur, Seigneur, » mais Jésus va dire, « Je ne vous connais pas. » Ceux qui sont vraiment ses amis, ce sont ceux qui font ce qu'il commande. Qu'est-ce qu'il commande? Il commande de nous aimer les uns les autres. C'est son commandement qui résume toute la loi. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et nous l'avons écrit dans sa parole qu'il nous a transmise. C'est un grand privilège que nous avons. C'est ce que Moïse espérait avoir davantage de la part de Dieu, savoir qui allait le conduire. Même il demande à Dieu, « Fais-moi connaître tes voies pour que je sois sûr de rester même dans tes bonnes grâces, que je garde la faveur, ta faveur. » Mais Jésus nous a donné cela. Il nous a révélé quelle est la volonté de Dieu parce qu'il nous considère vraiment ses amis, parce qu'il veut qu'on reste en lui, dans le Père. À ce point-ci, dans l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël, Moïse n'a pas encore obtenu la réconciliation avec le peuple. Mais ça s'en vient. À partir du verset 12, Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu m'as dit, je te connais par ton nom, et même, tu as obtenu ma faveur. » Donc, Moïse rappelle à Dieu qu'il a obtenu la faveur de Dieu. Donc, il ose demander à Dieu des directives claires pour savoir comment se rendre en Canaan, comment prendre possession. Il ose lui demander parce que Dieu a fait de lui son ami. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Je pense qu'à ce point-ci, il y a différentes interprétations possibles, mais je pense qu'à ce point-ci, Dieu est encore en train de dire à Moïse, « Je vais être avec toi, là. N'aie pas peur. C'est toi qui vas diriger mon peuple. Je vais envoyer un ange devant toi, mais je vais te diriger. Je vais te donner les directives qu'il faut. Je vais rester avec toi. Je vais te donner du repos. » Je pense qu'il s'adresse à Moïse. Et là, Moïse pousse l'audace à aller encore plus loin. Il dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Ce n'est pas seulement avec moi, Seigneur, que je te demande de marcher. C'est avec ton peuple sur qui tu as mis ton nom, celui que tu as libéré d'Égypte. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas au fait que tu marcheras avec nous, que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? » Et l'Éternel dit à Moïse, « D'accord, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur, et je te connais par ton nom. Mon Dieu accepte finalement de retourner marcher avec le peuple d'Israël. Donc, Moïse rappelle à Dieu, Israël, c'est ton peuple. Il lui rappelle aussi les propres paroles que Dieu avait prononcées peu de temps avant. Que c'est le fait que Dieu marche à leur tête qui les distingue de tous les peuples sur la terre. Dieu dit, toute la terre m'appartient, mais c'est vous que j'ai choisi. Pour être mon peuple, je serai à votre tête, vous serez saints. Vous serez glorifiés par moi et je serai glorifié en vous. Et il ose dire, même si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. On ne partira pas sans toi. Pour nous, et tu le vois, pour le peuple aussi, la chose la plus importante dans cette marche est que tu sois avec nous. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Tu vas nous faire entrer en Canaan et tu ne seras pas à notre tête, même si c'est un pays qui coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Ça va perdre sa saveur si ce n'est pas toi qui nous fais entrer victorieux. Cette conquête ne sera pas une véritable fête si notre roi n'est pas à notre tête. C'est de cette manière que Jésus intercède pour nous aussi. Que Dieu reste à notre tête et lui-même, dans le fond, il est à la tête de cette marche. Et il rappelle à Dieu dans sa prière, peu de temps avant sa mort, dans Jean 17, que nous sommes le peuple que Dieu s'est choisi. C'est pour eux que je te prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Le peuple de Dieu qui est l'Église est la gloire de Dieu. Malheureusement, nous ternissons souvent sa gloire. Nous reflétons la gloire de Dieu d'une manière plutôt sombre, souvent, malheureusement. Mais lorsque nous retournons, nous reconsacrons à Dieu, nous brillons sur terre. Nous sommes la lumière parmi les nations. Et Jésus nous a obtenu le privilège que le Fils de Dieu lui-même marche à notre tête. Non pas parce que nous avons obtenu la faveur de Dieu, mais parce que comme Moïse, parce que notre intercesseur Jésus a obtenu la faveur de Dieu. Il est venu en tant qu'homme, il a obéi parfaitement à la loi de Dieu. Et il a obéi parfaitement au plan que Dieu avait pour sa vie, jusqu'à mourir. Et il a délaissé tout intérêt personnel, toute gloire personnelle. Il a été humilié, maltraité, jusqu'à mourir. Et en cela, Dieu dit qu'il a obtenu sa faveur en tant qu'homme, et il a élevé au rang le plus élevé au-dessus des anges. Et parce qu'il a obtenu sa faveur, il a obtenu la requête présentée au Père de marcher à notre tête et de nous conduire dans les lieux célestes. C'est lui-même qui nous conduit. Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est avec nous en esprit. Il est avec nous en nous envoyant ses anges aussi. Mais il dit, « Lorsque vous êtes deux ou trois assemblés, je suis au milieu de vous. » Est-ce que c'est important de suivre Jésus? Oui, c'est extrêmement important. Comme le peuple d'Israël l'a réalisé ce jour-là, nous devons nous le rappeler. Si nous tentons de marcher par nos propres forces, en suivant nos propres voies, nous nous écartons du chemin. La seule chose qui nous attend, c'est de tomber, de trébucher. C'est seulement lorsque nous suivons Jésus que nous gardons le bon cap et que nous ne défaillons pas, que nous ne bronchons pas. En conclusion, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, dans le Nouveau Testament. Jean, chapitre 10. Souvent, dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme un berger qui conduit son peuple comme un troupeau. Et Jésus réutilise cette même image-là. Jean 10, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur, un brigand. Et celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Malheureusement, la majorité de ceux à qui Jésus s'adressait ne faisaient pas partie de cette bergerie-là. Ils ne reconnaissaient pas sa voix. Mais Jésus dit que ceux qui connaissent sa voix, Jésus les appelle par leur nom et les brebis le suivent. Elles veulent le suivre. Et lorsqu'elles s'écartent, mais le bon berger va les chercher. Il les ramène dans son troupeau. Donc, marcher avec Jésus, c'est le suivre. Et comment le suivre de manière concrète? Ce n'est pas qu'un concept abstrait, là. C'est très concret. Jésus nous l'a résumé. Aimez vos frères et sœurs. Aimez l'Église qu'il construit lui-même, qu'il bâtit. Mettez tout votre cœur à édifier vos frères et sœurs, à ajouter des pierres, à évangéliser, à vous édifier vous-même, vous équiper pour mieux servir. Quand on fait cela, on est en train de suivre Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, étant prêt même à mourir pour nos frères. Donc Jésus nous réconcilie avec Dieu. Tous ceux qui croient en lui, il fait de nous ses amis. Est-ce que vous vous considérez comme un ami de Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que même vous considérez que Jésus est votre ami? Est-ce que vous l'aimez sincèrement? Ses amis sont ceux qui le suivent et qui lui obéissent jusqu'à la mort. Quand nous péchons, nous perdons ce lien de proximité avec celui qui nous conduit. Mais aussitôt, considérons que la chose la plus précieuse, la plus importante à faire, c'est de nous reconnecter à lui, de nous repentir, de nous humilier, regagner cette communion intime avec Dieu. Donc, humilions-nous, confessons nos péchés, repentons-nous, demandons-lui le pardon d'obtenir sa faveur, sachant que ce n'est pas en vain, c'est même assuré que la réponse de Dieu va être oui, parce que Jésus est là et il plaide notre cause, il intercède fidèlement pour nous. Amen.